France Culture.
Durant la pandémie de Covid-19, alors que certains étaient en première ligne et que les Français leur rendaient encore hommage, nombre de travailleurs ont caressé un doux rêve, voir leurs conditions de travail s'améliorer. Grâce au télétravail, d'abord à une autonomie accrue, ensuite grâce au rééquilibrage entre vie professionnelle et vie privée, grâce également à un semblant de réflexion engagée sur la fonction, sur le sens même du travail. 5 ans plus tard exactement, où en sont ces réflexions? Les conditions de travail se sont-elles améliorer ou bien assiste-t-on à l'inverse à un retour en arrière? Pour en discuter, pour en débattre même, 2 invités ce soir, Maëlle et Zigbiji, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, maîtresse de conférences au CNAM, vous êtes chercheuse au LISE et affiliée au Centre d'études de l'emploi et du travail. Face à vous, Bruno Mettling, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président fondateur de Topics, un cabinet de conseil spécialiste des questions en ressources humaines, et vous êtes par ailleurs ancien DRH d'Orange. Bienvenue à tous les deux ce soir dans Questions du soir.
Des salariés du groupe Lidl en colère. Devant l'entrepôt régional, une trentaine de manifestants, écœurés par le résultat des dernières négociations salariales. Ils dénoncent une polyvalence à outrance, des absences non remplacées et une surcharge de travail.
Les conditions deviennent de pire en pire. Et nous, forcément, on se dégrade de plus en plus aussi physiquement et budgétairement. On n'a pas de compensation, donc ça devient... c'est trop.
Cette fois, par rapport aux conditions de travail qui se détériorent énormément, les ouvertures obligatoires le dimanche, les cadres déplorent aussi leurs conditions parce qu'ils sont au forfait. Et donc, ils sont malléables à merci, à savoir faire des nombres d'heures qui s'enchaînent sans forcément avoir leur mot à dire.
Grève nationale des salariés chez Lidl, c'est un reportage obtenu grâce à ICI Côte d'Azur, Maëlle et Zigbiji. Alors par-delà la diversité des secteurs, des compétences, des statuts, par-delà la diversité des travailleurs français en général, est-ce que vous avez vu émerger depuis 5 ans cette entreprise, cette fameuse entreprise du monde d'après ?
Alors l'entreprise, je sais pas, mais si on regarde l'évolution des conditions de travail, ce qui était évoqué dans les petits reportages sur le temps long, donc si on prend les enquêtes conditions de travail depuis 78, on observe une intensification du travail, donc des contraintes de plus en plus nombreuses et de plus en plus diverses qui pèsent sur les salariés, quelle que soit leur catégorie sociale. Donc on a des employés, des ouvriers, des cadres, des professions intermédiaires.
Quand vous dites le temps long, pardonnez-moi, c'est quoi? C'est 10
depuis
ans, 40
78,
ans
78, donc années 80 jusqu'à aujourd'hui, on a eu une petite pause dans l'intensification entre 98 et 2005 qui en général est attribuée à une pause après toutes les réformes qui ont eu lieu suite donc à la diminution du temps de travail, à la réforme du temps de travail. Et puis après, donc on arrive en 2019, qui est la dernière enquête conditions de travail dont on peut exploiter les résultats, dans laquelle on voit que finalement les contraintes physiques se stabilisent à un niveau assez haut, les contraintes émotionnelles, les facteurs psychosociaux de risque sont à un niveau de plus en plus fort et donc se stabilisent à un niveau assez élevé. Et on a une diminution de la baisse de l'autonomie. Donc l'autonomie baisse un petit peu, mais un petit peu moins vite. Et puis après, donc, si on regarde ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, donc on a une enquête qui est très intéressante, c'est l'enquête Trakov 1 de la DARES, qui nous a montré que finalement, un peu plus de la moitié des salariés n'avaient pas connu de transformation, de dégradation particulière de leurs conditions de travail, tandis que pour 32% d'entre eux, surtout des femmes, on avait connu une intensification du travail. Seulement 4% avaient connu un peu une accalmie un peu de leurs conditions de travail. Et donc, on n'a malheureusement pas encore l'enquête conditions de travail 2024, ni les résultats de l'enquête Trakov 2. Mais on peut quand même faire des petites hypothèses, à savoir que ce qui expliquait l'accalmie pour ces salariés pendant la crise Covid a disparu, c'est-à-dire qu'il y avait une charge de travail moins élevée du fait des contraintes sanitaires, etc. Donc on peut supposer, c'est ce qu'on entendait avec les salariés de Lidl, que ça reprend de plus belle finalement avec la reprise économique, et qu'on n'a pas vraiment de raison d'espérer que ça s'arrange pour les autres catégories.
Bruno Mettling, vous faites le même constat, la parenthèse est fermée sur le plan des conditions de travail, et dans le même temps, les espoirs des travailleurs ont été douchés?
Alors je suis peut-être un peu plus nuancé. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un certain nombre d'acquis liés à cette période post-Covid, mais qui ne sont pas du tout à la hauteur des espoirs qu'on avait pu faire à l'occasion du Covid. Petit retour en arrière pour rappeler quand même, il y a 5 ans, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé il y a 5 ans, c'est qu'on a dû en urgence réinventer pour toute une série de métiers d'activité, des modes de fonctionnement différents. Et la caractéristique de ce qui s'est passé, c'est qu'on a considérablement allégé toute une série de processus qu'on va qualifier de bureaucratiques, qui prennent un temps de plus en plus important. On a été à l'essentiel. On a dû faire confiance. Parfois, on a fait confiance. Parfois, on a dû faire confiance. Et donc, dans ce contexte-là, on s'est aperçu que ça marchait. Et en particulier, beaucoup de collaborateurs ont été investis d'un niveau de confiance, d'autonomie bien plus important que celui qu'ils avaient dans le monde d'avant. Des managers, certes, ont découvert le télétravail et sa complexité, ne nous le cachons pas, mais à l'inverse, ils ont vu alléger un certain nombre de reporting, ils sont rentrés dans un dialogue différent, mais bref, les gens ont pu espérer, effectivement, qu'on tirerait un certain nombre d'enseignements de ce mode d'organisation, mode d'urgence, qui avait, encore une fois, du positif. Alors, il en reste des éléments, et notamment, plusieurs millions de salariés ont désormais accès de manière très régulière au télétravail, et ce que vient de publier la CFDT montre bien que c'est un acquis incontestable et réel. Mais par contre, disons-le très clairement, dans la grande majorité des cas, la complexité, la couche de bureaucratie que j'arrivais, le temps passé dans des reportings, dans la comitologie, est toujours aussi important, est revenu au monde d'avant, pour le coup, privant les managers qui, par ailleurs, c'est vrai, sont soumis à des pressions de plus en plus fortes quant aux objectifs à atteindre, parce que je rappelle que nos entreprises sont dans un environnement compétitif où elles doivent rendre un certain nombre d'enjeux. Et donc, la pression commerciale, la pression financière qui demeure sur nos entreprises, accentué à ce monde qui est revenu au monde d'avant, crée beaucoup de frustration. Et c'est vrai que quand on regarde les indicateurs, ce qui me frappe beaucoup, c'est que la population des cadres en particulier, c'est-à-dire celle qui porte l'entreprise au quotidien, le cadre, c'est la voix et le visage de l'entreprise chaque matin quand il prend l'équipe, cette population-là montre des signes de fragilité, de désengagement qui sont très préoccupants.
On va revenir sur la situation spécifique des cadres, mais pour creuser ce que vous êtes en train d'expliquer, Bruno Mettling, vous avez mis en lumière le télétravail qui concerne là seulement une partie des travailleurs. Pas d'autres acquis à mettre en lumière, expliciter. Vous avez parlé d'autonomie, par exemple. Est-ce que cette autonomie, elle a perdu par-delà la fin de la crise sanitaire?
Non, la réalité, c'est qu'elle a été souvent reprise, j'allais dire post-crise sanitaire. Par contre, un des autres acquis, c'est quand même vie privée, vie pro. Ce thème-là, qui n'était pas vraiment présent, en tout cas pas de manière significative et systématique, a pris une certaine place, en tout cas dans le dialogue social, on le voit. Il y a de plus en plus d'accords qui portent un certain nombre d'enjeux autour des conditions de réalisation de cet équilibre privé, vie pro. Et puis, je le dis, avec le Covid, les entreprises se sont, post-Covid, rendues compte de la difficulté à reconstituer un certain nombre de compétences, de savoir-faire. Et dans cet équilibre, certains diront le rapport de force, mais dans cet équilibre entre entreprises et salariés, c'est vrai que post-Covid, il y a eu un certain rééquilibrage dont on peut dire qu'il est quand même porteur potentiellement d'un rééquilibrage et de bonne dynamique.
Mais Alézic Béji, qu'est-ce que vous pensez vous-même de ce symbole que représente le télétravail pour une partie, je le répète là encore seulement, des travailleurs français?
Oui, alors justement, là, on a les résultats de l'enquête Trakov 2. Donc, c'est des gens qui ont été interrogés en 2023. L'enquête nous apprend qu'à peu près un quart des salariés télétravaillent, ce qui n'est donc pas la majorité, que pour ces salariés, ça correspond à un travail un petit peu moins intense lorsqu'ils sont en situation de télétravail. Donc, quand ils retournent en présentiel, c'est pas tout à fait la même chose. Ça dépend un peu du secteur dans lequel ils travaillent. Et donc ça, c'est plutôt positif. Après, quand on regarde les indicateurs plutôt de soutien, de collaboration, il y a des choses plus inquiétantes. Donc les travailleurs témoignent des difficultés à avoir des discussions collectives, manque de moyens adaptés, ont du mal aussi à discuter avec leurs représentants du personnel. Et puis, dernière chose, c'est les effets du télétravail sur la conciliation, enfin l'articulation des temps sociaux et ses effets sur l'égalité entre hommes et femmes. Donc, ce qu'on voit, et ça, je dirais que c'est un petit peu encourageant, il y a un petit rééquilibrage des tâches entre hommes et femmes pour les couples qui ont des jeunes enfants. Donc ça, c'est moins le cas quand il n'y a pas d'enfants, mais quand il y a des enfants, il y a un petit rééquilibrage.
On a parfois du mal à comprendre intellectuellement, Bruno Mettling, comment le sujet du télétravail a avancé de front avec celui de la distinction plus nette, plus claire entre la vie professionnelle et la vie privée. On pourrait se dire naturellement, quand on télétravaille, la distinction est moins claire, moins naturelle entre les deux.
Alors c'est vrai que le thème de le rééquilibrage du privé-vie pro, il a concerné l'ensemble des salariés et pas seulement ceux qui sont en télétravail. Cette exigence, suite évidemment aux enjeux notamment de santé, d'un meilleur équilibre de vie, la moindre centralité du travail, c'est spectaculaire. Je rappelle qu'il y a 20 ans, 60% des salariés disaient que le travail est très important dans leur vie. Aujourd'hui, on est tombé à 20%. Donc c'est vrai qu'il y a une rupture extrêmement forte, ce qu'on appelle la centralité. Ça ne veut pas dire...
Rappelez ce chiffre, 20% aujourd'hui 20% des travailleurs...
20% des salariés considèrent toujours que le travail est un élément très important de leur vie. Pour pas dire central, là où ils étaient 60% il y a quelques années. Donc on voit bien qu'il y a un rééquilibrage dans la place du travail dans ma vie. Et je le dis tranquillement, c'est souhaitable. Voilà, les meilleurs équilibres de vie dont on parle, et l'équilibre privé-vie pro, est une exigence portée par de plus en plus de salariés. Sur le télétravail, ce qu'il faut rappeler, c'est que le télétravail a un certain nombre d'effets de bord. Hein, il ne faut pas se le cacher non plus. Ce n'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on a résolu évidemment l'ensemble des systématiques. Ce qui a été raté, et pour le coup, je parle vraiment d'une occasion ratée, dans la grande majorité des entreprises, c'est ce qu'on appelait le travail hybride. C'est-à-dire comment je reconstruisais une organisation du travail qui indiquait, qui organisait la relation entre ce qu'on fait à domicile, notamment tout ce qui est concentration expertise, et quand je reviens au bureau, il faut que ça ait un sens, et en particulier que tout ce qui est collectif, partage, travail en commun, innovation, soit réuni. Ce mode de travail hybride qu'on appelait de nos voeux un certain nombre de personnes, que des entreprises, heureusement, déploient, il est quand même très rarement pratiqué, ce qui fait que le télétravail, des fois je suis effectivement chez moi, je suis au bureau, mais c'est à peu près la même chose, et donc ma présence au bureau et les contraintes qu'elle expose ne sont plus du tout aussi évidentes par rapport au télétravail. Donc c'est là qu'il y a une occasion ratée, et c'est vrai que ce travail hybride, cette capacité à faire, avoir des projets d'équipe autour de cet enjeu de télétravail, il est encore largement demandé.
Il y a un sujet que vous n'avez pas abordé l'un et l'autre d'une façon spontanée, alors qu'on en a beaucoup parlé durant cette pandémie sanitaire, c'est la revalorisation sociale de certains métiers, de certaines fonctions. Je pense notamment à tous les métiers du care, pour parler un mauvais français, mais les IG Bigi, qu'est-ce qu'on peut dire là aussi sur ce sujet ? Est-ce que cette revalorisation a perduré par-delà la fin de la crise ?
Alors c'est vrai que justement ces fameuses enquêtes Trakov, elles ont montré que pour une partie des métiers qui connaissaient une intensification, c'était associé à une hausse du sens du travail, donc et notamment donc, les métiers de première ligne du soin, les enseignants, les infirmières, les personnels de santé.
C'est aussi les salariés Lidl qu'on entendait un peu plus tôt.
Et aussi les salariés de Lidl qu'on entendait un peu plus tôt effectivement, donc une revalorisation des gens qui ont été remerciés, etc. Et bon, moi j'ai l'impression que ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est que finalement on retrouve des conditions de travail qui sont très dégradés, qui continuent à se dégrader, et beaucoup moins ces discours très encourageants, très reconnaissants de la société envers ces catégories de travailleurs et travailleuses.
C'est vrai, Bruno Mettling, que pour recevoir dans cette émission-là, question du soir, beaucoup de professionnels dans des secteurs extrêmement divers, dans le secteur du soin, dans le secteur social, dans le secteur, j'allais dire aussi, de la grande distribution ou de l'agriculture, beaucoup disent que cette reconnaissance s'est effritée depuis la fin de la crise.
C'est vrai qu'on est revenu de ce point de vue au monde d'avant. Ce sont des métiers comme caractéristiques d'être des métiers qui sont souvent, comment dirais-je, financés via des appels d'offres. C'est des métiers dans lesquels l'évolution des compétences est peu pratiquée, l'accompagnement est faible. Et je dis ça parce que c'est un des points qu'on a devant nous. Comment faire en sorte que ces métiers, la reconnaissance qui l'accompagne, ne soient pas prisonnières de conditions d'appel d'offres qui sont strictement basées sur des éléments financiers, pas du tout sur des éléments d'évolution des compétences, d'adaptation de ces métiers. Et quand vous êtes sur des contraintes purement financières, je pense évidemment au métier de la logistique, je pense au métier du care, je pense de soins à domicile, quand vous êtes strictement confronté à des appels d'offres qui n'intègrent rien d'autre que le prix et que vous représentez 80% des coûts de l'entreprise, c'est vrai que la marge de manœuvre est limitée. Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail qui n'a pas été fait pour voir comment, en France, sur des métiers qui ne sont pas ouverts à la compétition internationale, comment sur des métiers de ce type-là, on introduit dans les processus publics d'appel d'offres, en tout cas c'est une des actions que l'on pousse beaucoup du côté Topix, comment on introduit des éléments qui sont liés aussi au développement des compétences, à l'accompagnement des collaborateurs, à la formation de ces salariés-là. On est revenu vraiment de ce point de vue-là au monde d'avant.
Si l'on se met un instant, mais les IGBJ dans la tête des employeurs cette fois-ci, est-ce que même on considère encore que ce temps de la pandémie, ce temps de la crise sanitaire était en réalité une parenthèse et qu'ils ont lâché les rênes un instant parce qu'ils y étaient contraints dans le fond et qu'il a fallu revenir au monde d'avant parce que c'était un fonctionnement, un mode d'organisation qui leur convenait bien plus que ces années de crise?
Alors, je ne suis pas dans la tête des employeurs, mais c'est vrai qu'à la sortie de la crise sanitaire, lorsqu'il y avait des difficultés de recrutement dans les secteurs qui sont connus pour avoir des conditions de travail assez pénibles, on a eu beaucoup de patrons, de DRH qui se sont exprimés publiquement pour dire qu'il fallait offrir des meilleures conditions de travail et d'emploi à ces travailleurs, travailleuses, parce que ils avaient du mal à recruter et que donc ils savaient bien qu'il fallait faire cet effort, mais que là c'était le moment de le faire. Alors on entend beaucoup moins ce discours, aujourd'hui. C'est peut-être aussi à lier au fait qu'on a de plus en plus de plans sociaux et donc ce rapport de force qui était mis en valeur. On disait que les salariés pesaient davantage sur le rapport de force. C'est vrai qu'avec le nombre de PSE qui explose, ce rapport est peut-être en train de s'inverser à nouveau.
Bruno Mettling, vous qui conseillez des dirigeants, pas uniquement, mais aussi des dirigeants et qui les fréquentez parfois, est-ce que justement, dans leur esprit, c'est cette vision-là qui prévalait ?
Écoutez, moi je suis plus nuancé Les entreprises que j'accompagne, qui sont celles justement qui veulent réussir le volet humain des adaptations et des transformations, je vois quand même autour des accords de qualité de vie au travail, et encore une fois, dans le dialogue social, beaucoup d'avancées et des accords QVT qui sont beaucoup plus riches. L'image du baby-foot et de la pause pizza est derrière nous. Je vois des dispositifs sur les aidants, les conditions dans lesquelles on peut accompagner effectivement des meilleurs équilibres, la mise en œuvre effective du droit à déconnexion. Je vois des choses qui bougent. Et incontestablement, du côté de la QVT, hein, comme on dit, de la qualité de vie au travail, moi je vois des accords, mais encore une fois, c'est dans le cadre d'un dialogue social, hein, qui a sa part d'exigence et d'attente. Je vois des choses très positives qui évoluent. Mais c'est vrai.
Je me permets juste de vous couper. Ça concerne toutes les entreprises, ça concerne là aussi tous les statuts, tous les niveaux de rémunération et de diplôme, ou c'est assez ciblé dans le fond les progrès que vous pointez là ?
Alors ça concerne beaucoup d'entreprises de tailles différentes, hein. Encore une fois, je ne vais pas les citer à l'antenne, mais c'est vrai que dans l'industrie alimentaire par exemple, hein, où il y avait des conditions de travail particulières, dans l'hôtellerie-restauration, on a dû adapter les conditions de travail et les cycles de travail, il y a des vrais progrès qui ont été réalisés. Encore une fois, ce sont des entreprises qui ont pris conscience d'un certain nombre d'enjeux et surtout du fait qu'on arrête d'opposer, dans une vision à moyen terme, performance économique et qualité de vie au travail. La grande erreur que commettent encore beaucoup d'entreprises qui ont une vision très conservatrice, c'est d'opposer, entre guillemets, ces enjeux de capacité de qualité de vie au travail, ces enjeux de performance et de productivité. C'est vrai que la productivité a été interpellée. Regardez la façon dont on a fait du télétravail le bouc émissaire. Ça, c'est une de mes grandes, comment dirais-je, oui, colère rentrée, la façon dont tout d'un coup le télétravail est devenu pour toute une série d'entreprises que je qualifierais de très conservatrices, le bouc émissaire de la baisse de productivité, alors qu'on sait que ça renvoie à des conditions d'engagement, des conditions de travail et des éléments beaucoup plus pertinents que le télétravail. Voilà, donc il y a toujours en France ce combat entre des entreprises, heureusement de plus en plus nombreuses, qui considèrent qu'effectivement le capital humain, pardonnez-moi cette expression, l'engagement des hommes et des femmes est un élément clé de leur performance et qu'il faut investir en la matière, et elles sont quand même de plus en plus nombreuses. Et puis c'est vrai, des entreprises plus conservatrices qui jouent surtout de court terme et l'évolution du compte d'exploitation et qui n'ont pas encore compris, ou en tout cas suffisamment mobilisé de moyens autour de cet engagement-là. Mais vraiment, tous les jours, je veux témoigner que les deux approches existent.
Mais Lézic Bigy, un mot aussi sur le management même, la façon dont les entreprises et la chaîne hiérarchique est organisée au sein des entreprises françaises. Est-ce que là aussi, la crise sanitaire a eu des effets de distorsion, de déformation, de transformation de cette chaîne hiérarchique des entreprises françaises ?
Alors c'est vrai que durant la crise sanitaire, il y a eu une baisse du contrôle qui était aussi liée à l'éloignement physique entre les salariés et les encadrants.
On parlait de l'autonomisation tout à l'heure des
ouais,
salariés français.
Oui, ouais, tout à fait. Il y a eu une diminution un petit peu du contrôle ou l'augmentation de l'autonomie si on veut. On voit dans les enquêtes qu'au retour de la crise sanitaire, on a une reprise du contrôle, hein, un peu comme si la pause est terminée. Maintenant, on essaye de reprendre un petit peu la main sur les choses. Alors, c'est des choses en moyenne, hein. Il y a toujours des entreprises qui se comportent différemment, évidemment. Il y a un rapport de l'IGAS qui a été évoqué récemment sur le management en France, qui compare la France avec l'Allemagne, la Suède, l'Italie et l'Irlande.
L'IGAS,
et
c'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales.
Voilà. Et donc ce rapport souligne le fait que le management en France serait très vertical, très hiérarchique, donc beaucoup basé sur le contrôle. Alors moi, je n'ai pas pu consulter ce rapport, mais néanmoins, ça fait écho à des travaux qu'on avait fait avec des collègues à partir de l'enquête européenne sur les conditions de travail 2021, dans lesquelles on voit que la France se distingue de ses voisins et de la moyenne de l'Union européenne, donc de ses voisins, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, par une faible consultation, une faible participation. Donc les salariés en France, moins qu'ailleurs, peuvent peser dans les décisions qui comptent pour leur travail. Donc ça, c'est une manière de répondre à cette question. Après, effectivement aussi, il y a une tradition finalement du législateur d'influencer de manière indirecte le management en poussant donc les entreprises à négocier sur les conditions de travail avec ce thème là de la QVCT. Mais ce qu'on voit quand on regarde ce que font les employeurs,
les conditions de travail,
qualité de vie et conditions de travail, ce qu'on voit quand on regarde un peu ce que déclarent les employeurs, c'est assez paradoxal, parce que d'un côté ils sont assez d'accord pour dire que la santé des travailleurs et aussi la performance se jouent au niveau de l'organisation du travail, donc ce qu'on appelle la prévention primaire. C'est là qu'il faut changer les choses. Et en même temps, ce qu'ils mettent le plus en œuvre, c'est de la prévention tertiaire, donc une action au niveau de l'individu. Donc on va plutôt l'aider à gérer son stress, lui proposer, des tickets psy, de la séance de sophrologie, ce genre de choses, sans forcément chercher à agir sur les conditions de travail.
On va revenir, bien sûr, sur la question de la santé au travail, santé physique et psychique. Mais avant ça, Bruno Mettling, un mot sur le management, sa structure, la façon dont il a évolué depuis la fin de la crise sanitaire. Vous êtes d'accord que la singularité, dans le fond, du management français, c'est d'abord d'être vertical, hiérarchique et dans le contrôle, bien plus qu'à l'étranger ?
C'est le modèle culturel de nos entreprises qui est derrière. Je veux dire, là, je pense à tous les managers qui nous écoutent, qui tous les jours, voilà. Donc ce modèle culturel, il est là. Et le faire bouger, c'est pas si évident que ça. Et c'est vrai que la tendance naturelle après le Covid a été de revenir. À l'inverse.
De revenir
à la situation antérieure, c'est-à-dire ce management contrôlant qui était décrit à l'instant. La réalité, c'est que c'est un modèle d'entreprise dont on parle. Et que le modèle alternatif qui consiste effectivement à gérer la délégation, à permettre aux managers de proximité de donner du sens, c'est-à-dire qu'il ne découvre pas dans une grande convention le nouveau plan stratégique de l'entreprise pour l'expliquer le lendemain à ses équipes, c'est-à-dire qu'il a été associé, qu'il est amené à donner du sens. Ce manager donc, à qui on donne les moyens et le temps notamment d'accompagner les difficultés individuelles de l'équipe, de manager l'équipe. Ce manager, comme on l'appelle, pardonnez-moi ce mauvais français, leader, boss, coach, qui donne le sens, qui sait aussi trancher, parce qu'il a la délégation pour le faire, les difficultés du quotidien. Et de plus en plus, la souffrance au travail, elle naît du fait que le manager n'a plus la capacité à arbitrer, à prendre un certain nombre de décisions. Ce manager-là, c'est vrai que quand il existe, il est assez plébiscité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le modèle des entreprises, encore une fois, la responsabilité n'est pas tant du côté des managers que des modèles de management, des référentiels de management des entreprises. Je veux témoigner ici que des très grandes entreprises ont décidé, à travers la simplification, à travers l'évolution de leur modèle managérial, à travers de revisiter ces éléments-là. Vous savez, l'entreprise, elle a un cerveau droit, un cerveau gauche. Il y a une partie du cerveau qui pousse à ces enjeux-là, qui a bien conscience des limites du modèle traditionnel. Puis il y a une autre partie, plus court-termiste parfois, plus liée à des opérations ponctuelles, plus liée à une vision un petit peu financière et de court terme, qui peut conduire à des déséquilibres.
Mais Lézic Bigier, est-ce que vous voulez réagir sur ce point précis ? C'est bon, vous me faites dire que non. Alors je voudrais vous faire entendre la voix de Marc, il est auditeur financier chez EY et associé, autrefois Ernst & Young. Et il était interrogé par Les Pieds sur Terre, diffusé le 2 septembre 2021, sur l'antenne évidemment de France Culture.
Le slogan de l'entreprise était assez explicite, c'est « Building a better working world », ce qui signifie « construire un meilleur monde du travail ». C'était un peu la promesse qui nous avait été vendue. Mais les conditions de travail n'étaient évidemment en fait pas réellement ce qui avait été prévu et ce qui avait été vendu par l'entreprise. Il m'est arrivé de travailler 50-60 heures par semaine. Tous les jours, je faisais 9h, 22-23 heures minimum, de ne dormir que 6 heures par nuit parce qu'il y avait une très forte exigence de ma hiérarchie. Et on rentre dans un cercle vicieux où on n'arrive plus à être aussi efficace, donc on travaille encore plus, donc on est de plus en plus fatigué. Ma vie privée a commencé à être très fortement comprimée par le travail, et ce qui en a résulté une forme de désillusion déjà.
C'est la condition de travail, les conditions de travail que décrit Marc dans cet extrait, Bruno Mettling. Pourquoi vous avez par vous-même abordé directement la singularité des cadres français dans leurs conditions de travail, justement?
Parce qu'aujourd'hui, quand on consulte comme je le fais, quand on accompagne des entreprises, les baromètres internes des entreprises, c'est alerte rouge, on va se le dire. La dégradation des paramètres qui concernent les cadres est manifeste. Je vais prendre un seul exemple. Dans toute ma vie, quand j'ai observé l'évolution de l'absentéisme, par exemple, les cadres est un élément de stabilité dans un absentéisme qui progressait plutôt dans les autres catégories de salariés. Aujourd'hui, le dernier baromètre qui vient de sortir sur 2024 montre que ce sont les cadres qui tirent l'absentéisme et notamment qui sont en première ligne sur les nouveaux troubles psychologiques, psychosociaux liés aux conditions d'exercice du travail. Donc, il ne faut pas tricher avec l'entreprise, surtout quand, encore une fois, y compris quand on l'accompagne. La situation des cadres, qui sont un peu le lieu de tension d'entreprise, de toutes ces contradictions, ces injonctions paradoxales, comme disent les sociologues ou les psychologues, ils sont au cœur, les cadres, parce qu'ils reçoivent toutes les pressions, toutes les injonctions, toutes les demandes de reporting. Ils ont une équipe, on leur demande à la fois, voilà. Donc, face à toute cette accumulation de demandes, face à aussi parfois...
Vous dites par là qu'ils ont plus de pression que les niveaux en dessous, les ouvriers, les employés.
Oui, parce qu'ils sont l'interface, encore une fois. Si je prends le cas de proximité, tous les matins, il prend une équipe et en même temps, tous les matins, il a reçu un certain nombre de mails dans la nuit. Tous les jours, donc il ne faut pas se mentir. Le cadre, c'est, et c'est pour ça que la dégradation, elle est manifeste chez eux. C'est pour ça que les désengagements sont assez spectaculaires. C'est pour ça que Marc l'exprime à l'instant. Dans les entreprises de conseil, parce qu'on a 6000 cadres, il y a de l'expertise, il y a le cadre qui manage, et puis il y a l'expert. Ils ont tous le statut cadre. Ces entreprises, cette accumulation, effectivement, de pression sur les cadres, crée, on peut le dire, sur cette catégorie-là, des enjeux particuliers aujourd'hui auxquels il faut s'adresser. Et notamment, la bande passante qui lui reste pour s'occuper de l'équipe, qui est ce pourquoi il a choisi d'être cadre. Une majorité aujourd'hui de cadres dit que si c'était à refaire, ils refuseraient, ils resteraient dans leur expertise, ils ne prendraient pas la responsabilité de manager une équipe. Voilà. Alors, il y a d'autres éléments aussi. Hein. Il y a le fait que le comportement individuel, à l'image de ce qui se passe dans la société, parfois de plus en plus complexe à gérer pour un cadre. Mais le cœur du sujet, c'est quand même ça. Hein. L'encadrement est le poste le plus fragile aujourd'hui et qui interpelle le plus le fonctionnement des entreprises.
Mais les IGBJ, même constat, la tendance la plus alarmante, c'est celle qui concerne d'abord et avant tout les cadres français.
Je pense qu'il faut s'alarmer de la dégradation de la santé des cadres, mais aussi des autres catégories de travailleurs. Donc c'est vrai que les cadres sont exposés à des très longs horaires de travail. En France, ils sont vraiment distinctifs d'autres catégories par leur très longue semaine de travail qui met en danger leur santé et l'équilibre vie familiale, enfin voilà, l'articulation des temps sociaux, les équilibres entre pro et perso. Et ce qui est intéressant aussi avec le témoignage de Marc, c'est ça, c'est qu'il me donnait l'impression d'être jeune. Et donc, ça renvoie aussi aux conditions de travail dans l'entrée dans les carrières et donc à quelles conditions de travail, à quelles normes on est socialisé. Et ça, ça concerne tous les jeunes, parce que les jeunes sont sujets à de moins bonnes conditions de travail que les moins jeunes. Mais cela dit, une fois qu'on a parlé des cadres, et c'est très important de le faire, il ne faudrait pas oublier en fait, que les autres catégories d'emploi sont sujets à la perte de sens au travail, souffrent également du travail qu'ils considèrent comme mal fait, sont aussi dans des conflits de valeurs, qu'on soit ouvrier, employé, profession intermédiaire. Et il faut faire attention à ne pas oublier cette perte de sens qui concerne aussi ces populations-là et aussi les femmes.
Ça me permet d'évoquer un autre sujet, ça me permet d'organiser une transition toute faite sur les effets du numérique. Et à ce sujet, je voudrais vous citer le chercheur Mathieu Dechessar qui s'exprimait dans l'hebdomadaire Alternative économique. Je le cite, elle s'est traduite, cette numérisation des relations de travail, par la massification des possibilités de contrôle et une déprofessionnalisation d'un tas de métiers. De nombreux cadres lui disent... Aujourd'hui, on est des ouvriers en costard, des pions, fin de citation. C'est bien la preuve d'ailleurs que le statut d'ouvrier reste quelque chose d'extrêmement péjoratif. Et ensuite, les effets de cette numérisation restent tout de même dans l'imaginaire collectif et dans le réel quotidien extrêmement délétères, Bruno Mettling.
Alors, je suis beaucoup plus nuancé là. Vous savez, je suis le père du droit à la déconnexion. C'est-à-dire que c'est un groupe de travail, un rapport que j'ai animé juste avant la loi El Khomri qui a conduit à reprendre les dispositions que nous proposions. Par rapport à la transformation numérique du travail, je pense vraiment qu'on a d'abord un élément, c'est que toute une série de missions à faible valeur ajoutée, répétitives, toute une série de process ont été, j'allais dire, numérisés. Et le premier à les plébisciter, c'est ceux qui les vivent tous les jours. On va pas parler de l'IA, mais par exemple, les derniers progrès de l'IA dans la fonction publique, sur toute une série de mails à laquelle on peut répondre, qui s'ajoutaient au temps de travail traditionnel, sont plébiscités. Donc, la numérisation, c'est aussi toute une série de tâches qui ont été automatisées pour permettre... normalement, aux collaborateurs de monter sur des tâches à plus forte valeur ajoutée à condition d'être accompagnés.
Et de se concentrer sur le cœur de métier.
Et se concentrer sur le cœur de métier, là où sa valeur ajoutée, le service par exemple, pour toute une série de relations clients, etc. C'est là que parfois c'est réussi, il y a des très bons exemples, y compris, moi j'ai accompagné des URSAF qui ont repositionné dans le dialogue avec les clients toute une partie après qu'on ait supprimé des tâches à faible valeur ajoutée. Puis de temps en temps, ce travail-là n'est pas fait parce qu'on a d'autres logiques qui se mettent en place, réduction d'effectifs, etc. Et on peut avoir l'impression décrit par votre auditeur. Mais très honnêtement, l'impact du numérique, dès lors qu'on est attentif aux équilibres de connexion vie privée, droit à la déconnexion, et encore une fois, c'est un sujet que je porte avec beaucoup de conviction depuis des années, dès lors qu'on est attentif à ce droit-là, dès lors que on a un bon usage des outils numériques, parce que souvent on forme à l'outil numérique, mais pas au bon usage des outils numériques. Hein, c'est un autre point important sur lequel j'insiste beaucoup dans les entreprises qu'on accompagne, surtout avec l'IA qui arrive. Voilà. Une chose est d'avoir un outil numérique entre les mains, une autre chose est d'en faire un usage sociable qui respecte évidemment les collègues et les collaborateurs qu'on peut avoir.
Mais Elisic Bigi, sur cette question de la numérisation, du numérique au sein des relations de travail, est-ce que là encore c'est un outil d'émancipation ou de contrôle, ou les deux à la fois ?
Pour compléter, je dirais qu'en fait, la numérisation, il faut voir de quelle manière elle s'articule à une augmentation des contraintes de process. Parce que souvent, en fait, elle sert...
C'est-à-dire ?
Elles servent, par exemple, vous avez l'introduction d'un progiciel dans une entreprise qui va du coup rigidifier des process, des façons de faire, et donc encadrer de manière de plus en plus précise une activité qui était plus autonome. Donc c'est ce que disait Mathieu Detchessart, enfin c'est suggéré dans sa citation. Ça segmente le travail, ça le rigidifie et ça permet aussi, ça favorise l'apparition d'indicateurs chiffrés, mm-hmm. qui sont aussi des moyens de contrôle. Et donc tout ce qu'on retrouve, c'est un usage possible du numérique. Il y a plein d'autres façons de l'utiliser, mais utilisé dans ce contexte-là, ça renforce, enfin ça diminue l'autonomie, ça renforce le contrôle, ça renforce ce que Marianne Dujarrier appelle le travail des planeurs. Donc c'est ça, on est à distance du travail et on travaille pour nourrir des indicateurs, et puis si on a du temps, on fait le vrai travail.
Un mot sur la santé des travailleurs, justement. Le 29 janvier dernier, Ipsos publiait le baromètre santé mentale et QVCT, votre acronyme favori. Selon le sondage, la santé mentale des salariés français reste relativement dégradée en 2025. 1 sur 4 se déclare en mauvaise santé mentale, un chiffre similaire à celui mesuré en 2024. Les activités en contact avec le public ou les services publics sont d'ailleurs les plus concernées. Malézic Bigi, comment est-ce qu'on analyse ces résultats?
C'était le diagnostic que nous faisions. C'est ce qui est assez inquiétant aujourd'hui, c'est les effets du travail sur la santé. Alors, ce qui est positif, c'est qu'on peut de plus en plus les observer. Donc, on peut maintenant apparier les fameuses enquêtes en conditions de travail aux données de consommation de soins. Donc on sait, par exemple, en fonction de telles conditions de travail, est-ce qu'on va aller plus souvent chez le médecin, chez le psy, prendre des anxiolytiques, etc. Et donc ce qu'on voit, c'est que intensité du travail, baisse d'autonomie, c'est lié à des dépressions, des facteurs anxieux généralisés, de plus en plus forts. Et ça touche tous les publics, en fait, du moment qu'il y a ces deux variables, donc baisse de l'autonomie, augmentation de l'intensité. Et cette question des effets du travail sur la santé, elle est importante, parce qu'elle est bien sûr essentielle pour celles et ceux qui le vivent, mais elle est aussi importante pour l'équilibre des comptes publics, parce que il faut financer les atteintes, il faut faire avec des parcours qui sont heurtés, beaucoup d'arrêts maladie, des gens qui sont plus en mesure de travailler, et tout ça, c'est les effets indirects des mauvaises conditions de travail.
Bruno Mettling, sur la santé mentale, d'ailleurs, concentrons-nous là-dessus, sur la santé mentale, même constat, mêmes inquiétudes de votre côté?
Alors, une dégradation de la santé mentale des salariés de ce pays, c'est incontestable. La difficulté, c'est évidemment d'en trouver les causes. Et les causes, évidemment, dans une société de plus en plus fracturée, où les solidarités fonctionnent de moins en moins bien, où les lieux collectifs qui servaient de soutien sont de plus en plus affaiblis. La causalité, j'allais dire, de cette dégradation de la santé, elle est évidemment compliquée à établir. Il y a un chiffre, moi, qui me frappe et qui vient de sortir. C'est une enquête, une étude qui vient de sortir il y a 2 jours. Vous avez 85% des salariés français qui se déclarent en état de bien-être au travail, en tout cas qui ne vivent pas des solutions dégradées. Ça veut dire au passage que 15% se déclarent en mauvaise santé mentale. Quand on creuse un petit peu plus, on s'aperçoit quand même qu'il y a des troubles liés aux conditions d'exercice du travail, des troubles du sommeil, des troubles de l'anxiété, etc., qui touchent en particulier certaines catégories. Et là, pour le coup, on est en forte hausse. Donc, le message derrière, c'est ne nous mettons pas la tête dans le sable au motif que 85% des salariés ne se déclarent pas en situation de santé mentale. Ça veut dire 15% qui le déclarent, pour le coup, de manière extrêmement forte. Les signes, les indicateurs de dégradation sont quand même extrêmement présents et ils concernent les jeunes, ça a été dit, en particulier dans les conditions d'accès au travail. Et c'est vrai que le télétravail a des tas d'avantages et de qualités, mais quand on est un jeune, qu'on est confronté à un manager qui est en télétravail, c'est compliqué de réussir l'insertion dans le travail aujourd'hui, c'est sans doute plus compliqué. Ne mettons pas ça, je le dis en passant, mais voilà, vos auditeurs sur l'intergénérationnel, moi j'entends beaucoup de généralités là-dessus, c'est pas vrai. Faire réussir une entrée au travail dans un collectif aujourd'hui, c'est compliqué aujourd'hui, ça l'était.
C'est pas vrai non plus que les jeunes ne veulent plus travailler, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup.
Franchement, ils veulent un rapport plus équilibré au travail par rapport à leur vie privée. Qui peut sérieusement les en blâmer quand on voit l'impact? Mais à l'inverse, ils sont effectivement en difficulté du point de vue de la santé mentale. C'est effrayant, j'emploie ce terme ici, le niveau de prise d'anxiolytique chez les jeunes générations quand on voit les cadres, je le redis une dernière fois, puis j'en reviendrai plus, et les femmes, qui sont les trois populations qui, quand on regarde l'absentéisme, quand on regarde les problèmes de santé mentale. Et donc, il faut effectivement s'attaquer aux sujets que sont charge de travail, conditions de travail, organisation du travail, pour répondre, mais sans perdre de vue quand même que dans notre pays, 85% des salariés ne s'estiment pas être dans une situation dégradée au travail.
On a beaucoup parlé des salariés français, des entreprises françaises. Il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs qui ne sont pas insérés dans ces structures. Je pense évidemment et notamment aux indépendants. La voix de Karim, il est conducteur chauffeur VTC. Il est interrogé par Ici Héros.
Aujourd'hui, on a des chauffeurs qui se connectent 10 heures, 12 heures par jour, qui arrivent à obtenir des 60, 70 euros dans la journée. Sachant qu'à côté de ça, il y a un crédit d'une voiture qui souvent coûte 40 000, 50 000 euros. Des charges derrière, l'URSSAF, pas mal de choses. Et ça devient dramatique. Et sachant qu'en plus, la commission actuelle d'Uber risque d'évoluer. On parle d'une commission variable qui pourrait atteindre les 45%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur 100% de la valeur d'une course, 25% va au niveau des plateformes. Déjà qu'on a du mal à s'en sortir parce qu'on a un volume de course qui est réduit et que le coût de la vie est de plus en plus cher. Aujourd'hui, on n'en peut plus.
Mais les Igbiji, est-ce que pour ces personnes-là, est-ce que d'ailleurs pour les travailleurs indépendants en général, tout ce qu'on vient de se dire, tout ce que vous venez de nous expliquer, c'est encore pire ?
Alors pour les travailleurs des plateformes qui représentent à peu près 2% des personnes en emploi, c'est ce qu'on entend est tout à fait juste, c'est qu'en fait il y a des moyens de contrôle, notamment par les applications, donc ça renvoie aussi à ce que je disais sur l'usage qu'on peut faire du numérique, on n'est pas obligé de faire cet usage-là du numérique, avec donc une dérégulation des horaires de travail, des conditions de travail, de la rémunération. Donc là on est vraiment sur une population qui est en difficulté du point de vue des conditions de travail et dans emploi, et les promesses sont clairement pas tenues. Il faut les distinguer des autres indépendants.
Absolument.
Qui ont des situations parfois pas faciles, mais
très hétérogènes.
Plus stables, donc c'est très variable, c'est difficile de faire un gros paquet avec tous les autres indépendants.
Bruno Mettling, sur les indépendants, est-ce que là aussi vous avez, j'allais dire, des constantes et des inquiétudes quant à leurs conditions de travail ?
Alors c'est clair que quand le gouvernement m'avait proposé de présider l'autorité de régulation des plateformes d'emploi, puisque j'ai conduit le premier processus qui a ouvert des négociations entre les plateformes et les travailleurs indépendants, c'est clair que j'ai eu l'occasion de le dire publiquement, c'est le nouveau prolétariat, j'allais dire, du XXIe siècle, dans des conditions de travail qui n'ont rien à voir avec ce qu'un pays se doit d'offrir. Donc j'ai beaucoup poussé pour ces négociations, pour l'organisation, et c'est vrai qu'il faut réguler. C'est bien ce qui posait de le faire collectivement, parce que si une plateforme ne le fait pas, évidemment, c'est toutes les autres plateformes qui se retrouvent dans ces dynamiques. Donc le mécanisme qui devrait permettre cette régulation a été engagé, encore une fois. J'ai vu les premières négociations, les hausses de la rémunération, mais comme ça a été dit, il ne faut jamais baisser la garde, parce que la tentation, évidemment, elle est toujours de revisiter. Et c'est vrai, dernier point, qu'entre ces indépendants-là, et puis les experts de haut niveau qui choisissent vraiment avec une autonomie, une organisation du travail et un rapport au commanditaire qui est beaucoup plus équilibré, les choses sont très très hétérogènes, pour pas dire n'ont rien à voir. Donc c'est vrai que, s'agissant du travail indépendant, la situation des livreurs, la situation des chauffeurs VTC est sans doute celle qu'il faut sans doute plus réguler, pousser pour un meilleur équilibre, ça c'est clair.
D'un mot plus positif et conclusif court, Maëlézic Bigi, est-ce qu'on peut dire tout de même que cette question du sens au travail est plus importante que jamais pour les travailleurs français, dans leur extrême diversité là encore ?
Alors, ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives à la frontière du syndicalisme, de la recherche, du travail, des entreprises qui essayent de porter cette question du sens du travail. Après, il faut voir ce qu'on met derrière cette question du sens du travail. Mais si on y met la question des conditions de travail, du lien avec la santé et aussi la santé démocratique, alors on peut avoir un petit peu d'espoir.
Sujet fondamental. Donc, merci à tous les deux de nous avoir éclairés dans cette discussion et ce débat. Maëlézic Bigi, vous êtes sociologue, maîtresse de conférences au CNAM, chercheuse au LISE et affiliée au Centre d'études de l'emploi et du travail. Bruno Mettling, président fondateur d'Utopix, un cabinet de conseil spécialiste des questions en ressources humaines. Vous êtes par ailleurs ancien DRH d'Orange. Merci à tous les deux.